VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mercredi 15 février 2023. Au moins 73 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. En Tunisie, l'opposition dénonce des arrestations répressives, tandis que le président Kais Saied affirme que les personnes arrêtées ont violé la loi. Au Tchad, des rebelles jugés en masse pour l'assassinat d'Idriss Déby.
C'est un procès qui pourra nous permettre de faire toute la lumière sur le décès du maréchal du Tchad, le fameux Idriss Déby, non ?
Dans la partie magazine, nous retrouverons Maître Francis Lokoldé, l'un des avocats des rebelles présumés. L'Union européenne débat d'un dixième train de sanctions contre Moscou. Une société israélienne est accusée de manipulation électorale par des journalistes d'investigation. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, le Cameroun vise la création de 50 000 emplois directs au port de Kribi. Et pour les sports, Gernot Rohr, nouveau sélectionneur des écureuils du Bénin. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. En RDC, les autorités du Sud Kivu ont accusé aujourd'hui le Rwanda d'avoir l'intention d'attaquer cette province de l'Est après des coups de feu à la frontière. L'armée rwandaise a été la première à accuser dans un communiqué des éléments des forces armées de la RDC, 12 à 14 hommes, d'être entrés hier nuit dans la zone neutre entre les deux pays au niveau du poste frontière de Ruzizi. Ces hommes ont ouvert le feu sur notre poste frontalier. Nos forces de sécurité ont riposté et les soldats des FRDC se sont retirés, ajoute dans un communiqué l'armée rwandaise. 5 défenseurs des droits humains ont été arrêtés mardi au Burundi par les services de renseignement, dont 4 s'apprêtaient à prendre un avion pour l'Ouganda. Sonia Indikumasabo, présidente de la coordination générale de l'Association des femmes juristes du Burundi, fait partie des militants arrêtés à l'aéroport de Bujumbura, a affirmé le président de la Ligue ITK, en chair Nikoya Gizé. Prosper Runyanga, lui, membre de l'Association pour la paix et la promotion des droits de l'homme, a de son côté a été arrêté mardi à Ngozi, dans le nord du Burundi. Au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts à la suite d'un naufrage hier au large des côtes libyennes, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Claire Morin-Gibou.
7 survivants qui ont regagné les côtes libyennes dans des conditions extrêmement difficiles sont actuellement hospitalisés, précise l'OIM, ajoutant que jusqu'à présent, 11 corps ont été récupérés par le Croissant-Rouge libyen et la police locale. L'embarcation qui a coulé transportait environ 80 personnes et était en route pour l'Europe, a ajouté l'organisation onusienne. Cette dernière tragédie porte à plus de 130 le nombre de morts en Méditerranée centrale depuis le début de l'année. En 2022, plus de 1450 décès ont été enregistrés par l'OIM. La Méditerranée centrale reste la traversée maritime migratoire la plus meurtrière au monde, rappelle l'agence onusienne qui juge la situation intolérable. Une action concrète des États est nécessaire pour accroître la capacité de recherche et de sauvetage et établir des voies de migration sûres et régulières, a insisté l'OIM.
En Tunisie, le Front de Salut National, principale coalition de l'opposition, déplore le pourrissement de la situation politique après une série d'arrestations qu'elle qualifie de répressives. Les détails avec Nani Talani.
Depuis samedi, 10 personnalités ont été arrêtées sous le soupçon de complot contre la sûreté de l'État, selon l'avocat Samir Dilou. D'après lui, la plupart sont des opposants appartenant au parti d'inspiration islamiste Ennahda et ses alliés, mais aussi le directeur d'une grande radio privée et un très influent homme d'affaires. Ces arrestations menées selon des procédures violentes et illégales font entrer la Tunisie dans un état de pourrissement politique, a déploré le président du FSN, Ahmed Nedib Tebi. Il ajoute que cette vengeance contre les opposants et le recours à la répression traduisent la confusion de la politique du président Kais Saied, qui ne pense qu'à se débarrasser de ses opposants. Le président Saied s'est défendu en qualifiant les personnes arrêtées de criminels terroristes qui doivent être jugés. Il soutient que les récentes arrestations n'ont absolument rien à voir avec les droits et les libertés.
Au Nigeria, une foule en colère a brûlé aujourd'hui des pneus et bloqué des routes à Ibadan, importante ville du sud-ouest, pour protester contre la pénurie de billets de banque. Ces trois dernières semaines, des émeutes ont éclaté à Ibadan, Abeokuta et Kano, la plus grande ville du nord, après la décision de la Banque centrale de remplacer les anciens Naira par de nouveaux billets. Le parti au pouvoir a justifié ce changement par la nécessité de lutter contre les achats de voix, mais l'opposition dit que c'est pour la priver de ressources et l'empêcher de faire campagne. Les Nigériens sont appelés aux urnes le 25 février pour choisir le successeur au président Muhammadu Buhari. La Côte d'Ivoire va rouvrir la nuit prochaine ses frontières terrestres, fermées depuis mars 2020 suite à la pandémie de COVID-19. La Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes le 22 mars 2020, au moment où le monde entier se barricadait face à la pandémie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon le collectif de journalistes d'investigation Forbidden Stories, une entreprise clandestine israélienne spécialisée dans la manipulation électorale à travers les réseaux sociaux a été utilisée pour influencer des élections dans le monde, particulièrement en Afrique. Nathalie Barge.
Selon les révélations du collectif, la société surnommée Team Jorge par les journalistes est composée d'anciens membres des services de sécurité israéliens. Trois membres de Forbidden Stories se sont fait passer pour des clients potentiels afin de recueillir des informations sur cette entreprise. Cette dernière était déjà impliquée dans le scandale Cambridge Analytica en 2018, qui consistait à analyser des gros volumes de données pour vendre des outils d'influence électorale. Avec sa nouvelle structure, Jorge affirme être intervenu dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel, dont les deux tiers ont eu lieu en Afrique. Forbidden Stories rapporte qu'à l'approche de la campagne au Kenya en 2022, Jorge s'est intéressé au compte de proches du futur président William Ruto et est intervenu dans les élections de 2015 au Nigeria. La société a développé une plateforme numérique de solutions avancées pour impact médiatique, créant des faux comptes sur les réseaux sociaux. D'après le collectif, l'entreprise recourt aussi à l'espionnage de personnages placés sur écoute ou piratés. Pour démontrer l'efficacité de ces outils devant les faux clients, Jorge a pris le contrôle des systèmes de messagerie de plusieurs responsables africains. L'entreprise procède aussi à des actions d'influence auprès de décideurs ou de journalistes pour le compte de ses clients. Ces différents commanditaires n'ont pas été identifiés.
L'Union européenne prépare un 10e paquet de sanctions contre Moscou. Bruxelles envisage de viser des opérateurs iraniens dont les drones tuent des civils ukrainiens, a souligné ce mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Nous proposons des restrictions sur des dizaines de composants électroniques utilisés dans les systèmes d'armement russes tels que les drones, les missiles, les hélicoptères, a souligné Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg, précisant que l'ensemble des nouvelles sanctions porterait au total sur 11 milliards d'euros. Mais il y a aussi des centaines de drones fabriqués en Iran que la Russie utilise sur les champs de bataille en Ukraine. Ces drones iraniens tuent des civils ukrainiens, a-t-elle ajouté. Elle a défendu que le nouveau paquet de sanctions européennes contre Moscou est aussi dirigé pour la première fois contre des opérateurs iraniens liés aux gardiens de la révolution. Elle a précisé que 7 entités iraniennes sont visées dans le projet de la Commission. Appelant les États membres à adopter rapidement cette proposition, Ursula von der Leyen a rappelé que l'objectif est que ces nouvelles sanctions soient en place d'ici au 24 février, le premier anniversaire du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
La Russie a revendiqué aujourd'hui une avancée de ses troupes sur le front est en Ukraine, dans la région de Louhansk, où Kiev a décrit la situation comme difficile. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes ont dû se replier face aux assauts russes qui ont brisé deux lignes de défense adverses, des informations impossibles à vérifier de sources indépendantes. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé aujourd'hui qu'il se rendrait demain en Turquie pour témoigner du soutien de l'Alliance après le séisme dévastateur et pour plaider en faveur de la ratification des adhésions de la Suède et de la Finlande à l'Organisation Atlantique. 30 pays ont signé les protocoles d'adhésion et 28 les ont ratifiés. Seule la Turquie et la Hongrie n'ont pas encore fait ratifier leur accord. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré début février que le Parlement turc pourrait ratifier l'adhésion de la Finlande sans celle de la Suède, fermement bloquée par Ankara. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Mfa.
Au Cameroun, environ 50 000 emplois directs devraient être créés au port en eau profonde de Kribi dans le sud du pays à la faveur de l'aménagement d'une zone industrielle. Le directeur général de ce port a signé le 15 février avec des partenaires italiens, suisses, philippins et chinois un mémorandum d'entente relatif à ce projet qui sera intégré sur une superficie de 1 500 hectares pour un investissement estimé à 900 millions de dollars. L'inflation annuelle en Afrique du Sud a légèrement baissé en janvier à 6,9% contre 7,2% le mois précédent, mais les prix des produits alimentaires continuent à grimper, a indiqué mercredi l'Agence nationale des statistiques. L'inflation y avait atteint un niveau historique à 7,8% en juillet, nourri par la guerre en Ukraine. Pour tenter d'enrayer la tendance, la Banque centrale a plusieurs fois relevé son principal taux directeur qui est désormais à 7,25%. La start-up sud-africaine d'assurance numérique Naked Insurance a annoncé mercredi 15 février avoir levé 17 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B. Cette mobilisation de capitaux, considérée comme l'un des plus grands cycles de financement d'insurtech jamais réalisé en Afrique, servira essentiellement à la société à mener son expansion sur le continent africain.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Gernot Rohr est le nouveau sélectionneur du Bénin.
Effectivement, lors de sa réunion tenue hier 14 février, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a choisi le technicien franco-allemand pour prendre les rênes des écuries. Les détails avec notre correspondant Boyko au Bénin, Élisée Mpatine.
En attendant l'officialisation de ce bail entre les deux parties le 21 février prochain, la Fédération béninoise de football annonce avoir jeté son dévolu sur l'ancien coach de Bordeaux, d'Ajaccio de Nice ou encore de l'Étoile sportive du Sahel. Les autorités béninoises, pour rester collées à leur ambition d'avoir un sélectionneur haut de gamme, veulent miser sur l'expérimenté Gernot Rohr. Âgé de 70 ans, l'ancien coach de Créteil est un connaisseur du football africain pour avoir traîné ses boss un peu partout sur le continent. Gernot Rohr a été précédemment sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, poste duquel il a été relevé par la fédération presque à la veille de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, bien qu'ayant fini troisième lors de l'édition de 2019 en Égypte avec le Gabon. Le franco-allemand était quart de finaliste de la CAN de 2012 et en octobre 2014, il a dirigé le MENA du Niger avant de déposer ses valises au Burkina Faso trois ans plus tard. Par ce choix, les dirigeants du football béninois veulent visiblement jouer dans la Cour des Grands, mais d'abord avec zéro point obtenu en deux sorties, ils devront se battre pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Boycon, Élisée Oumpati, VOA Afrique.
Maroc-Brésil, un match amical et ce sera le 25 mars.
Et oui, notez bien cette date, le Brésil va jouer son premier match amical de l'année 2023 à Tanger contre le Maroc. L'annonce est faite par la Fédération brésilienne de football, quatrième de la dernière Coupe du Monde, première équipe africaine à atteindre le dernier carré. Les Lions de l'Atlas vont ensuite défier le Pérou à Madrid le 28 mars, selon la Fédération royale marocaine de football. Pour la Seleção, ce match contre le Maroc sera le seul aux dates FIFA du printemps, précise l'instance brésilienne dont le président Ednaldo Rodrigues parle des débuts d'un nouveau cycle pour le football brésilien. Il dit souhaiter démarrer face à un adversaire de taille, le Maroc. Ce sera un bon test, conclut-il.
Suite des huitièmes de finale aller en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Après sa frénésie d'achat lors du dernier mercato, Chelsea va en mesurer les effets en se déplaçant sur la pelouse du Borussia Dortmund. Les nouveaux propriétaires des Blues, emmenés par l'Américain Todd Bowley, ont déboursé près de 300 millions d'euros l'été dernier pour enrôler de nouveaux joueurs et ont dépensé la même somme cet hiver lors du mercato. Dans l'autre rencontre, le Benfica Lisbonne part favori à Bruges, l'invité surprise de ses huitièmes de finale. Hier, impuissant au Parc des Princes face au Bayern Munich, vainqueur 0-1. Malgré le revenant Kylian Mbappé, le PSG s'est placé en situation délicate, Toutefois, rien n'est joué avant le match retour à Munich le 8 mars. De son côté, l'AC Milan a pris une option contre Tottenham, battu 1-0 et se déplace en bonne position en vue du match retour.
Page des sports VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, c'est VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, reprise aujourd'hui du procès de 454 rebelles présumés, tous accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby Itno, tué au front en 2021. Ouverte lundi, l'audience tenue dans l'enceinte de la prison de Klesoum, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale N'Djamena, a été ajournée. Les accusés comparaissent entre autres pour terrorisme, mercenariat, atteinte à la sûreté nationale et assassinat du président Déby. Nani Talani a joint à N'Djamena maître Francis Lokoldé, l'un des avocats.
Nous estimons que c'est un procès qui pourra nous permettre de faire toute la lumière sur le décès du maréchal du Tchad, le feu Idriss Déby Itno. C'est un dossier qui avait fait aussi son temps, parce que là, c'est passé par le juge d'instruction. Le juge d'instruction a eu à poser tous les actes utiles pour la manifestation de la vérité. Nous avons des documents versés au dossier et nous allons les faire valoir le moment venu.
Pourquoi avoir attendu près de 2 ans entre l'offensive et la capture des accusés et l'ouverture du procès?
Mais ça, c'est dû à la lenteur judiciaire toujours décriée. Nous avons eu en son temps à le relever parce que là, suivant le code de procédure pénale, il y a un délai raisonnable. Mais là, peut-être c'est compte tenu des enjeux, c'est compte tenu de la complexité du dossier en lui-même. Et donc là, le juge d'instruction s'est donné le temps utile pour pouvoir recueillir les informations, pour pouvoir même se transporter sur les lieux. Il y a eu même des commissions rogatoires. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés dans l'intervalle. Et nous avons pensé que c'est un dossier qui est très sensible, c'est un dossier qui est très complexe. Et il fallait que le juge d'instruction puisse se donner le temps nécessaire pour faire jaillir la vérité. Et je trouve que c'est un retard qui est certes préjudiciable aux intérêts des accusés, mais ça valait aussi la peine parce qu'il va falloir que le juge puisse se donner à fond pour pouvoir cerner tout le contour du dossier.
Ne craignez-vous pas un procès politisé?
C'est possible que ça soit un procès politisé parce que là, ces procès que nous sommes en train de gérer actuellement intervient à la suite du message donné en son temps par le président de la transition durant les travaux du dialogue national inclusif. Donc, nous disons que c'est certes la main du politique qui est derrière ces procès, mais en ce qui nous concerne, nous, on prend comme c'est un dossier judiciaire, c'est un dossier comme tout autre, il est bien vrai, et nous allons nous donner à fond en ce qui concerne la défense pour pouvoir lever l'équivoque sur certains chefs d'accusation. Parce que là, aujourd'hui, on reproche à toutes ces personnes-là d'avoir commis le crime d'assassinat. Et quand vous compulsez les jours du dossier, on fait bien évidemment référence à l'assassinat du maréchal du Tchad. Mais il va falloir au moins que les preuves soient apportées. On ne peut pas pour autant affirmer avec facilité que ce sont ceux-là qui ont eu à donner le coup fatal, qui ont eu à attenter à la vie du maréchal. Il va falloir une analyse approfondie, il va falloir apporter toutes les preuves possibles pour soutenir l'accusation. Et je crois que cette mission qui nous revient aussi, de démontrer en quoi toutes ces différentes accusations ne sauraient aucunement tenir en ce qui concerne nos clients. Donc c'est un procès. Il serait hâtif pour nous de dire déjà nos moyens de défense, mais nous avons assez de choses à dire, nous avons assez d'irrégularités à relever, et aussi dans le fond du dossier, il y a beaucoup de choses que nous pourrons dire pour pouvoir obtenir au besoin, pourquoi pas, l'acquittement de nos différents clients.
Maître Francis Lokoldé, l'un des avocats des rebelles présumés.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La première rencontre africaine des écoles de journalisme et de communication s'est tenue lundi et mardi à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat au Maroc. La rencontre était l'occasion de débattre des défis auxquels la profession fait face en Afrique. Les participants ont décidé de créer un réseau des centres d'enseignement du journalisme en Afrique pour mutualiser leurs efforts. Nathalie Barge a joint la professeure Yacine Diagne, enseignante au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, à son retour du Maroc.
Cette rencontre à Rabat, organisée par l'ISIC de Rabat au Maroc, sous le thème de l'enseignement du journalisme et de la communication en Afrique, question d'avenir, a regroupé 6 écoles de journalisme ou d'institutions de journalisme en Afrique. Pour l'instant, pour pouvoir mettre en place un accord ou en tout cas un réseau ou un institut, on ne connaît pas encore l'appellation exacte qu'on va lui donner, pour pouvoir faire des échanges entre les enseignants, chercheurs, les formateurs et les étudiants de ces différentes écoles.
Quel avantage pourraient toutes ces écoles tirer finalement sur le continent africain en mutualisant ces efforts, notamment au niveau de l'enseignement?
Parce qu'il y a des experts déjà dans ces différentes écoles. Chacun a ses experts dans son domaine de compétences. Mais ce qui se passe, quand on a besoin d'expertise, on va chercher ailleurs. Par exemple, dans des écoles de formation occidentale, alors que nous avons des experts, mais on ne les connaît pas nous-mêmes, on ne se connaît pas, au fait. Qu'il y a un expert, par exemple, en web journalisme au Sénégal, la Guinée en a besoin, va chercher ça en France, ou en Belgique, ou aux États-Unis, alors qu'il peut bien faire appel à l'expert qui se trouve au Sénégal, parce que c'est beaucoup plus proche, et culturellement, cet expert-là a beaucoup plus de notions que quelqu'un qui vient d'ailleurs.
Alors, quels sont les principaux défis, justement, à relever par le journalisme, surtout les écoles de journalisme, sachant que sur le continent, on est quand même dans des situations particulières. On sait qu'il y a des conflits, etc. Il y a des problèmes politiques. Par rapport à cela, au niveau de la formation, est-ce que vous en avez parlé lors de cette rencontre?
Évidemment, nous avons parlé de ça parce qu'il y a l'éternel problème qu'on vit toujours, hein, la désinformation. Parce que vous savez, la désinformation en période de crise, c'est son terreau fertile. Donc, nous, écoles de formation qui formons de futurs journalistes, notre rôle, c'est de donner des outils à nos jeunes étudiants qui seront des journalistes dans le futur pour pouvoir lutter contre cette désinformation et faire aussi de l'éducation aux médias une priorité. Par exemple, l'école de journalisme du Mali va organiser au mois de mai une rencontre interafricaine sur cette thématique, le rôle du journalisme en période de crise, parce que comme vous le savez, il y a une crise là-bas, donc quel doit être le rôle du journaliste, qu'est-ce que le journaliste peut faire pour aider les citoyens ordinaires à avoir la bonne information. Et je pense que cette rencontre est nécessaire, c'est une nécessité aujourd'hui parce que nous le subissons tous, cette désinformation-là.
Yacine Diagne, enseignante au CESTI de Dakar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Ouganda, Moussa Asaya Kessera, 68 ans, est à la tête d'une famille de 12 femmes, 102 enfants et 578 petits-enfants. Le plus jeune, âgé de 10 ans, et le plus vieux de 50 ans. Et ce père de famille peine à subvenir aux besoins de ses enfants ou même à se souvenir de leur prénom. Les détails avec Blanche Sanou.
Dans le village de Bugiza, en Ouganda, Moussa Asaya Kessera, un père de 102 enfants, suscite l'attraction dans sa communauté.
J'ai 12 épouses qui m'ont donné au total 102 enfants. Sur ces 102 enfants, nous en avons perdu 4 et à ce jour, il m'en reste 98. Ces 98 enfants ont donné naissance à 578 enfants qui sont mes petits-enfants.
Dans la famille de Moussa Asaya Kessera, certains essayent de gagner un peu d'argent en faisant des tâches domestiques pour leurs voisins ou passent leur journée à la recherche du bois de chauffage et d'eau, parcourant souvent de grandes distances à pied. Avec les années, Moussa Asaya Kessera ne peut même plus identifier ses propres enfants.
Le problème que j'ai avec ces 102 enfants, c'est que je ne me souviens que du premier et du dernier enfant. Je ne me souviens pas de tous les noms de certains des autres enfants du milieu.
Sa vaste famille vit dans une maison délabrée au toit de tôle rouillée et une vingtaine de huttes en terre situées à proximité. Moussa Asaya Kessera dit que c'est un héritage de son père.
Je n'ai que 2 hectares que mon père m'a laissés. Et dans ces 2 hectares, c'est là que nous avons tous ces enfants et cela a été un très gros problème. J'ai eu de nombreux problèmes. Trouver de l'argent pour payer les frais de scolarité, nourrir tout le monde, trouver des vêtements et de l'argent pour aider au cas où l'un d'eux est malade.
Pour éviter que la famille ne s'agrandisse encore, ses épouses prennent des moyens de contraception. Écoutons Moussa Assaya Kessira.
Lorsque j'ai vu que le nombre d'enfants était trop élevé, nous avons décidé de mettre mes femmes au planning familial pour que le nombre n'augmente pas.
La polygamie est autorisée en Ouganda. Moussa Assaya Kessira s'est marié pour la première fois en 1972 à l'âge de 17 ans lors d'une cérémonie traditionnelle. Son premier enfant est né un an plus tard. Zabina Assaya est la troisième femme de Moussa Assaya Kessira.
Je ne savais pas que notre mari continuerait à nous amener d'autres femmes. Quand il en a amené une autre, je me souviens que je me sentais si mal et en colère. Mais avec le temps, je me suis habituée à tout cela.
Pour résoudre les différends qui ne manquent pas dans la famille, des réunions mensuelles sont organisées. Lorsque le repas de midi est prêt, souvent composé de manioc bouilli, le père de famille sort de sa hutte où il passe la majeure partie de sa journée et appelle d'une voix forte la famille à faire la queue pour manger. Il vit aujourd'hui avec sept de ses femmes à Bougiza, cinq l'ont quitté faute de ressources suffisantes ou de place dans la ferme familiale.
Les migrants à la frontière sud des États-Unis cherchant à entrer légalement doivent désormais demander des rendez-vous de traitement de leur dossier via une application mobile des douanes et de la protection des frontières appelée CBP One. Les demandes sont nombreuses et certaines personnes se plaignent que l'application ne fonctionne pas. Depuis McAllen au Texas, le reportage de Victor Hugo Castillo, récit Claire Morin-Gibou.
Des centaines de migrants le long de la frontière qui demandent un permis de séjour conditionnel pour raisons humanitaires ont du mal à obtenir un rendez-vous avec les douanes et protection des frontières, ou CBP, pour se présenter à un point d'entrée pour une éventuelle admission aux États-Unis. Angeline Castellano nous l'explique.
On déprime, on a envie de pleurer parce que ça fait déjà si longtemps.
Angeline Castellano est une migrante vénézuélienne qui raconte qu'elle et beaucoup d'autres sont frustrés par la difficulté de naviguer dans l'application mobile CBP One. Les migrants avec lesquels VOA s'est entretenue rencontrent des problèmes après avoir soumis leurs informations personnelles et demandé des rendez-vous. Angeline Castellano nous l'explique.
Ça prend ma photo, elle est enregistrée et là, ça montre à quel pont je dois aller, la date et l'heure, mais ça n'envoie pas. Vous voyez l'option d'envoi, mais rien n'est envoyé.
Des dizaines de migrants se trouvent sur le pont international Reynosa-Hidalgo entre le Texas et l'État mexicain de Tamaulipas, essayant d'obtenir des informations. Il raconte que le temps imparti pour terminer la demande de rendez-vous n'est que de quelques minutes. D'autres disent que l'accès à l'application est bloqué. De nouveau, Angeline Castellano.
On dirait qu'il ne l'active que de 8 à 9 heures du matin et après cela, il n'affiche plus rien, ni calendrier ou quoi que ce soit.
Ariel France est un migrant originaire de Colombie.
Erreur. Et la vérité est que je ne sais pas où aller pour pouvoir entrer légalement aux États-Unis.
Le manque de culture numérique et les coûts élevés des données cellulaires rendent le processus plus difficile pour certains migrants, dont beaucoup se sentent également vulnérables et en insécurité au Mexique. Ariel France.
Les choses sont compliquées pour nous. Nos familles attendent et beaucoup de gens n'ont pas d'argent.
Erickson Molera vient, lui, du Venezuela.
Ici, nous traversons tellement de choses. La façon dont nous dormons, parfois, nous ne mangeons pas.
Selon un porte-parole du CBP, le système fonctionne. Le CBP affirme que le système a reçu avec succès des informations de 100 000 personnes et programmé plus de 20 000 rendez-vous. Mais le CBP admet également qu'il existe une demande très élevée. Leur conseil, vérifier le système tous les jours tôt le matin lorsque de nouveaux rendez-vous se libèrent.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph.
Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.